Voilà, c'est toujours une joie pour nous de nous retrouver avec vous à Figeac et merci de votre invitation. Nous avons le privilège d'avoir un accès à la parole de Dieu et de pouvoir l'ouvrir facilement entre nous et sans crainte, ce qui n'est pas le cas de tous nos frères et sœurs dans le monde. Et donc ce matin, nous voulons profiter de cette possibilité, ouvrir nos Bibles. Et j'aimerais lire avec vous une histoire dans Jean chapitre 5, donc c'est le début de ce chapitre, on va commencer donc par lire à partir du premier verset, Jean 5. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelée en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. »« Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait le jour du sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. » « Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ta natte et marche. » « Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. » Et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est l'histoire d'un homme qui pouvait connaître une autre vie. Un homme qui pouvait devenir de nouveau quelqu'un d'actif, d'utile. Un homme qui pouvait un jour peut-être expérimenter une nouvelle joie et une nouvelle liberté. Mais Jésus l'a trouvé couché. Il était, on pourrait dire, cloué au sol par plusieurs poids qui pesaient sur sa vie et qui l'empêchaient de se lever et de marcher. Et j'aimerais lire avec vous donc ce matin cette histoire, qui est une histoire vraie, bien sûr, mais qui peut-être aussi pour nous une sorte de parabole pour nous qui devons admettre que dans notre humanité, avec nos faiblesses, avec nos limites, nous sommes parfois un peu boiteux et peut-être même parfois paralysés. Il y a des choses qui nous freinent, il y a des choses qui nous empêchent parfois d'avancer. Et le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer de tout ce qui peut peser sur nous. Et là, le premier poids dont j'aimerais parler par rapport à cette histoire et à nous-mêmes, c'est le poids des idées fixes. Est-ce que vous avez des idées fixes? On n'en est pas toujours conscient. Hein. Mais selon une croyance populaire de l'époque, on pouvait être guéri à Bethesda. Et une multitude de malades s'étaient rassemblés dans l'espoir d'une vie meilleure, pour tenter sa chance, on dirait aujourd'hui. Mais toujours selon cette tradition de l'époque par rapport à cette piscine, La guérison était aléatoire. On ne savait jamais quand on allait pouvoir en profiter. Et même cette guérison était réservée soit aux plus rapides, soit aux mieux organisés. Je dis ça parce que l'homme dit, le temps que je me traîne là-bas, un autre arrive avant moi. Je ne suis pas le plus rapide. Donc, je suis exclu. Ou alors, au mieux organisé, parce qu'il disait aussi, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Ce qui sous-entend, il me semble, que d'autres s'étaient organisés pour avoir quelqu'un près d'eux, pour pouvoir les aider à avancer au moment critique. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passait dans cette piscine, et on ne va pas s'arrêter sur le phénomène de l'eau qui bouillonnait, parce que finalement, cet homme ne pouvait jamais en profiter. Donc, voilà, l'explication du phénomène ne change rien. Mais ce qui était grave, c'était que l'homme couché était enfermé dans l'idée que lui, il n'arriverait jamais à faire avoir changé sa vie. Il y avait là, autour de cette piscine, une sorte de mentalité qui prétendait que la course est au plus agile et la guerre au plus vaillant. L'Ecclésiaste dit le contraire dans le chapitre 9 de son livre, mais au sein de cette communauté d'estropiés, on pourrait dire que la loi du plus fort s'imposait. À chaque bonne occasion, il n'y en avait que pour un seul. Quelles pourraient être les idées fixes qui nous retiennent dans notre marche avec le Seigneur, dans notre engagement à son service? Qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me freine quand le Seigneur m'appelle à me lever pour lui et à devenir un membre agissant de son corps? Est-ce qu'il m'arrive, est-ce qu'il nous arrive parfois de nous cacher derrière l'idée que finalement, nous ne sommes pas parmi les plus rapides ou les mieux organisés et que d'autres feront mieux que nous? Ou alors, il y a plein d'autres choses qui peuvent nous freiner. Certains peuvent dire, je suis trop vieux. D'autres diront, je suis trop jeune. Ou alors, je suis trop occupé. Et on pourrait rajouter bien des raisons. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui peut nous freiner dans notre marche avec Dieu? Je vous ferai remarquer que quand le Seigneur Jésus est intervenu dans la vie de cet homme paralysé, il a court-circuité cette idée fixe qui était ce qui le retenait là. Il a court-circuité cette croyance populaire qu'il n'y en avait que pour un seul. Il n'a pas proposé de rester là et de jeter l'homme dans la piscine au moment où ça bouillonnait, non. Il lui a fait comprendre qu'il y avait une autre issue. Et avec le Seigneur, il y a toujours une autre issue. Même quand nous nous sentons coincés dans une situation qui ne semble pas vouloir changer, il y a toujours une autre sortie avec Dieu. Et ici, par la parole efficace de Jésus, cet homme pouvait se lever et marcher sur le champ. À travers ce récit, nous devons aussi entendre l'appel du Seigneur, qui dit encore aujourd'hui, mais lève-toi. Quelles que soient les idées fixes qui parfois nous paralysent, ou les systèmes de pensée derrière lesquels nous nous cachons pour ne pas changer, Jésus nous invite à nous lever. J'aimerais parler ensuite. J'ai pris du retard dans mes diapos. De parler ensuite du ce que j'ai appelé le poids du statu quo, des choses telles qu'elles sont, ou on pourrait dire le poids de l'habitude. Après tout, l'homme était malade depuis 38 ans. Et donc il est fort probable qu'il s'était fait une raison, comme on dit aujourd'hui. il s'est installé dans une situation où il était toujours dans la faiblesse et il était coincé dans cette idée. Il s'était habitué aussi à ne rien faire. Il s'était habitué surtout à ne rien espérer. Il avait trouvé, on pourrait dire, un genre d'équilibre, mais je mettrai équilibre entre guillemets, un équilibre d'ailleurs troublé de temps en temps parce que quelqu'un d'autre était guéri parmi ceux qui étaient autour de lui. Mais il s'était peut-être même persuadé que c'était normal puisque les autres étaient plus rapides ou mieux organisés. C'était normal qu'eux progressent, qu'eux s'en sortent, que lui, il reste à faire du surplace parce que il n'était pas à la hauteur des autres. C'est extraordinairement triste cette situation que Jésus découvre près de la piscine de Bethesda. Et cet homme était dans un triste état, non pas seulement parce qu'il n'avançait plus, mais parce qu'il n'espérait plus avancer. Et c'est pas tout à fait la même chose. Parfois, oui, on n'avance pas beaucoup. On n'avance pas comme le Seigneur voudrait, mais au moins nous pourrions espérer avancer. Cet homme était au-delà de l'espoir. Il n'espérait plus avancer. Il était sans projet. Il était prisonnier de l'habitude, de ce qu'on appelle le statu quo. Le statu quo, c'est quand on dit, ben, c'est comme ça. Et rien ne peut changer. Et Jésus vient remettre en question cet équilibre malsain. Jésus vient déconstruire les raisonnements qui le tenaient là dans cet état. Et Jésus lui ouvre des perspectives nouvelles. Mais les perspectives nouvelles sont aussi des perspectives inquiétantes. Car le changement nous fait toujours peur. Se peut-il que nous soyons nous-mêmes parfois prisonniers de l'habitude? On s'installe dans des choses, dans des idées que finalement, bon, c'est pas très bien, mais c'est comme ça, et ça ne changera pas. Et le Seigneur, il veut remettre en cause ces choses qui nous empêchent de marcher en avant avec lui. Le fameux statu quo, c'est comme ça. Est-ce que nous sommes parfois nous-mêmes enfermés par la pensée que les autres feront toujours mieux que nous? Et que la seule conduite raisonnable est donc de rester tranquille, de laisser tout faire à ceux qui sont plus rapides ou mieux organisés. Mais le Seigneur continue à dire, mais lève-toi. Et je crois qu'on peut dire que le Seigneur n'aime pas voir ses enfants couchés. Couchés dans le sens de cet homme qui était vraiment dans la faiblesse et sans espoir d'en sortir. Parce que le plan du Seigneur pour ses enfants, c'est que nous avancions. Et que nous avancions tous, pas juste quelques-uns, et que les autres regardent, mais que nous avancions tous, et il nous exhorte même par la plume de l'apôtre Paul à marcher ensemble dans la même direction. Ensemble, nous pouvons avancer. Et je crois que le Seigneur veut encore nous ouvrir de nouvelles perspectives pour que nous fassions. Alors, il y a plusieurs possibilités. Parfois, il veut que nous fassions plus parce qu'il trouve que finalement, nous laissons un peu vivre. Parfois, il veut que nous fassions mieux ce que nous faisons déjà. Et il veut nous aider à perfectionner notre don et notre service. Et parfois, le Seigneur vient nous dire, mais j'aimerais que tu fasses autre chose. Je veux te qualifier pour un nouveau service. Mais toujours quelque chose pour lui, mais qu'on fera avec lui. que le poids de l'habitude, hein, et du statu quo ne nous retienne pas. Ensuite, j'aimerais parler de ce poids que j'ai appelé le poids de la complaisance et de la peur. Il y a là deux choses qui se complètent et qui se renforcent d'ailleurs mutuellement, et je crois qu'il faut les traiter ensemble. Honnêtement, si quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus avait posé cette question à un homme malade depuis 38 ans, paralysé, veux-tu retrouver la santé? Je crois qu'on aurait trouvé la question déplacée. Même un peu cynique. Hein? Un homme qui est couché depuis 38 ans, lui dire, veux-tu être guéri? Et pourtant, dans la bouche du Seigneur Jésus, cette question sonne juste. Pourquoi? Eh bien, je pense que il y a dans cette histoire quelque chose qu'on peut déduire du fait que l'homme avait vécu 38 ans dans cet état sans mourir de faim. Il a vécu 38 ans dans cet état et il n'est pas mort de faim. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on s'occupait de lui. Forcément. Il y en a qui venaient l'aider, on devait lui apporter à manger. Il vivait, comme on dit aujourd'hui, de la charité publique. Ou, n'ayons pas peur des mots, cet homme vivait en assisté. Avait-il vraiment envie que cela change? Et c'est finalement, c'est un peu ça la question que Jésus lui pose. Est-ce que tu as vraiment envie que ça change? Est-ce qu'il désirait sincèrement retrouver une vie comme les autres, une vie dans la société? Est-ce qu'il avait envie de retravailler pour vivre, de s'assumer? Alors la question se pose vraiment parce que parfois nous pouvons nous complaire dans notre faiblesse. Parfois on se cache derrière cette faiblesse qui est la nôtre, hein, et nous pouvons tous être concernés par ce problème. Hein. On dit parfois, bon, ça je ne sais pas faire, et je ne veux surtout pas apprendre. On peut très bien être debout dans son corps, en bonne santé physique, et être couché dans sa tête, dans son cœur. Maintenant, quelqu'un objectera peut-être que l'apôtre Paul a bien dit « Je me plais dans les faiblesses pour Christ ». Et c'est bien écrit, hein, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « Je me plais dans les faiblesses pour Christ ». Mais ici, dans ce que dit Paul, se plaire n'est pas se complaire. L'apôtre Paul ne s'est jamais caché derrière ses faiblesses pour ne rien faire. Hein. Vous connaissez la vie de l'apôtre Paul, c'était un homme actif pour le Seigneur, mais il s'émerveillait du fait que malgré sa faiblesse, le Seigneur pouvait l'utiliser, que le Seigneur venait prendre cette faiblesse et à travers lui, la puissance de Dieu pouvait s'exprimer. Et d'ailleurs, quand il dit « Je me plais dans les faiblesses pour Christ », c'est aussi dans le contexte où il rappelle cette promesse qu'il avait reçue, mais qui est vraie aussi pour nous. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Est-ce qu'on veut bien entendre « Ma grâce te suffit, car ma puissance peut s'accomplir dans ta faiblesse ?» Paul n'a jamais utilisé donc sa propre faiblesse pour rester couché. Au contraire, il se réjouissait de voir ce que la puissance de Dieu pouvait accomplir à travers lui, malgré ce qu'il connaissait de sa propre faiblesse. Donc devant cette histoire, on peut se poser la question de comment est-ce que nous voyons nos propres faiblesses devant les besoins déjà de l'Église, devant un monde qui a tellement besoin de Dieu, devant la détresse qui est autour de nous. Est-ce que nous allons dire, mais moi je ne peux rien faire. Je ne pourrai jamais faire ceci ou cela. Ou bien est-ce que nous pouvons entendre l'appel du Seigneur qui veut percer cet écran de complaisance qui nous bouche le chemin. Et la parole du Seigneur qui dit, lève-toi, je t'équipe pour faire ce que je te demande. Parce que ça, c'est un grand principe de la parole, que quand le Seigneur nous demande quelque chose, il nous le rend possible, il nous équipe, hein, il nous donne la force nécessaire. Il ne s'agit pas, bien sûr, tout d'un coup de croire que je peux tout faire. Non. Nous ne savons pas ce que l'homme guéri est devenu, d'ailleurs, par la suite. Hein. On n'a pas la fin de son histoire. Il n'a peut-être jamais été gouverneur ou rabbin. Mais Jésus l'a rendu capable de reprendre sa place dans la vie. Comme il veut donner à chacun de nous de trouver ou parfois de retrouver notre place au milieu de son peuple, dans son Église. Le Nouveau Testament insiste beaucoup sur la diversité de la grâce de Dieu, la diversité des dons de Dieu. Donc, c'est dans la différence aussi que nous servons le Seigneur. Nous ne sommes pas tous pareils les uns aux autres. Nous apprenons les uns des autres, c'est vrai. Ça, la parole nous invite à apprendre, à imiter ceux qui nous ont précédés. Mais il ne s'agit pas de devenir le clone de quelqu'un. Il s'agit de croire que le Seigneur veut nous rendre capables de prendre une place dans son plan. Et c'est la place que lui a pensée pour nous. Il nous demande de croire donc que même notre faiblesse n'empêchera pas sa puissance d'agir dans notre vie. Puis soyons honnêtes aussi avec nous-mêmes, ce qui nous retient souvent, c'est la crainte. Le Seigneur nous appelle, mais nous avons peur. Repensons à cet homme qui était couché là, près de la piscine, qui pouvait avoir peur de troquer le confort relatif de la position allongée contre les inconvénients qui faisait craindre la station debout, la marche en avant. Quand le Seigneur lui a parlé, il a dû avoir toutes ces choses qui sont venues devant ses yeux, mais qu'est-ce que ça veut dire, retrouver la santé? La peur prend beaucoup de formes différentes. Parfois, c'est la peur des responsabilités. Il y a la peur de l'engagement. Si je m'engage, il va falloir tenir. La peur d'être moins libre, ça c'est quelque chose que le monde essaye de mettre sur nos cœurs. Parfois aussi, la peur d'avoir moins de temps pour nos sacro-saints loisirs, qui sont aujourd'hui obligatoires. Ou alors c'est la peur de nous fatiguer. Ou la peur de nous ridiculiser. Et vous pouvez sans doute ajouter à la liste la peur que vous avez connue ou que vous connaissez ces temps-ci. L'homme paralysé, donc, au bord de la piscine de Bethesda, pouvait légitimement éprouver de la crainte devant le bouleversement de son existence qui était derrière cette question « Veux-tu retrouver la santé ?» Que de changements impliqués dans cette question. Alors, sa réponse, je ne sais pas comment vous comprenez la réponse qu'il fait à Jésus, c'est pas un oui franc et massif. Oui, Seigneur, il met en avant le fait que Lui, il ne peut jamais arriver à temps dans la piscine, il ne voit pas d'autre solution. Et pourtant, Jésus va agir. Le oui n'est pas très bien exprimé, mais le Seigneur voit le cœur. Et je pense que Jésus a discerné en lui une authentique aspiration à une vie meilleure. Et alors, la puissance de Jésus s'est exprimée et l'homme s'est levé. N'y a-t-il pas dans nos cœurs, parfois, des idées fixes, des habitudes, une complaisance, des peurs, et pourtant, avec cela, une aspiration à mieux servir notre Maître, à mieux connaître notre Maître. Et ces choses s'opposent hein, les unes aux autres. Et si, dans tel ou tel domaine, vous avez l'impression que peut-être vous êtes laissé prendre dans le fait de rester couché hein, devant la difficulté de baisser les bras devant l'effort que le Seigneur demande, eh bien, l'appel retentit encore ce matin. Lève-toi. Mais on n'a pas tout à fait fini avec les poids qui pesaient sur la vie de cet homme, parce qu'il faut parler aussi du poids du péché. Jésus retrouve cet homme dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Quelle étrange menace. Hein, ça a dû lui faire drôle d'entendre ça. Et pourtant, je pense que l'homme a sans doute très bien compris ce que Jésus voulait dire. C'est un avertissement, ça reste un peu énigmatique pour nous, parce que nous n'avons pas le contexte, nous n'avons pas les prises de précision sur la vie de cet homme auparavant. Et il semble que dans son cas, cette débilité physique était liée à un péché précis ou à un état de péché précis. Alors là, il faut faire attention, parce que il serait faux de dire que toute maladie, que toute faiblesse est causée par un péché précis. La Bible ne le dit pas. Mais il serait aussi dangereux de nier que le péché produit des difficultés, des troubles, des maladies. Et je pense que l'homme de Bethesda a très bien compris ce que Jésus voulait dire. Mais cette partie de l'histoire nous rappelle que si nous n'avançons pas, si notre vie spirituelle parfois piétine, c'est jamais innocent. Je veux dire que d'une façon ou d'une autre, cette stagnation est une manifestation ou une conséquence du péché dans notre vie. C'est que notre vieux cœur rebelle se réveille et essaye de reprendre le dessus. Et dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire, et vous savez ce que c'est comme moi, c'est de confesser ce péché et de saisir le pardon en Jésus-Christ pour pouvoir nous lever de nouveau et avancer. L'Épître aux Hébreux le dit de cette façon-là, « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons. » Alors dans les Hébreux, c'est courir. Dans l'Évangile, c'était « Lève-toi et marche. » Mais c'est la même chose. Hein, c'est le même appel. Donc pour résumer, la grâce et la puissance de Jésus sont venues à bout de toutes les barrières qui enfermaient cet homme à Bethesda, de tous les poids qu'il écrasait. La puissance et la grâce de Dieu l'ont libéré. Et la grâce et la puissance de Jésus sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas changé. Elles n'ont pas faibli. Et nous pouvons compter sur elles. Et le Seigneur saura aussi venir à bout de tout ce qui nous entrave ou peut nous entraver un jour dans notre marche avec Dieu et dans notre service pour lui. Mais il faut que notre foi rencontre l'appel du Seigneur et y répond pour que les choses bougent. L'apôtre Jean nous explique à la fin de son évangile pourquoi il a écrit, on pourrait résumer sa devise par « croire pour vivre ». Ce qu'il dit, et c'est vrai de tout son évangile, et donc de ce que nous avons lu ce matin, que ceci a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Dieu veut la vie pour nous et une vie de plus en plus abondante. Alors il y a quand même un dernier point, je conclue rapidement là-dessus. C'est le poids de l'opposition. Une fois debout, l'homme guéri, renouvelé, pouvait penser qu'il en avait fini avec les poids. Et il n'en était rien. Il n'avait pas fait 10 pas qu'il s'est fait interpeller par les gardiens du sabbat, qui lui ont dit « Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ce que Jésus t'a dit de faire. C'est quand même quelque chose, hein. » Alors, est-ce qu'il allait se mettre à regretter sa vie tranquille près de la piscine? Parce qu'au moins là, personne ne le harcelait. C'est juste pour nous rappeler que lorsqu'on se met en marche sur l'ordre de Jésus, on n'a pas fini de se faire disputer. Il y en aura toujours pour nous critiquer, pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Ici, ça n'a pas tardé, mais apparemment, l'homme a tenu bon, il a tenu tête, et il a rencontré de nouveau Jésus, et il a pu avancer dans la connaissance de celui qui l'avait remis debout. L'opposition ne doit pas nous surprendre. C'est annoncé dans la parole, et on pourrait citer bien d'autres textes où on nous dit, mais il y aura de l'hostilité, il y aura de l'opposition. L'important, c'est de ne pas nous laisser décourager et de faire comme l'homme dans l'histoire, avancer toujours et retrouver Jésus, hein, et approfondir notre connaissance de lui, de sa grâce et de sa puissance. Avancer toujours avec lui pour le servir et répondre à son appel et nous rappeler qu'il nous rend capables. Voilà, donc le Seigneur s'approche aussi de nous dans notre vie pour nous demander, mais veux-tu? Alors je ne sais pas ce qu'il mettra derrière le veux-tu pour vous ce matin, hein, je chercherai pour moi-même, mais pour chacun de nous, il y a quelque chose. Peut-être que le Seigneur a à nous demander, veux-tu ceci, cela? Quel est ton besoin? Le Seigneur nous demande et il est prêt à y répondre. Que nous puissions répondre, oui, je veux, Seigneur. Je veux ce que tu veux pour moi. Puissions-nous obéir à son appel. Lève-toi, prends ta natte et marche. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ces récits des rencontres que Jésus a fait sur la terre quand il a marché parmi les hommes, mais pour ce qui s'est passé près de la piscine de Bethesda il y a bientôt 2000 ans. Merci parce que tu nous as permis de connaître cet événement et d'y réfléchir. Mais Seigneur, nous voulons aussi comprendre tout ce qui découle de cette expérience de l'homme de Bethesda. Et nous devons confesser que parfois, effectivement, nous nous laissons freiner. Nous nous laissons même arrêter dans notre marche avec toi par différentes choses, par des poids qui pèsent sur nos cœurs. Mais Seigneur, nous voulons ce matin saisir encore une fois que tu es le grand libérateur et que rien ne peut résister à ta puissance. Alors Seigneur, aide-nous à entrer dans cette liberté avec toi. Là où tu veux nous toucher aujourd'hui, tu sais qui nous sommes, Seigneur, tu sais ce que nous vivons, tu sais quel est notre besoin du moment, et tu viens y répondre. Merci pour cette grâce. Merci parce que elle est toujours à la hauteur de ce qu'il nous faut. Merci parce que encore ce matin, nous pouvons revenir à toi et repartir avec toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen.